Frères et sœurs, les amis, je vous retrouve avec joie alors que nous sommes tous confinés et encore pour un bon moment. Soyez assurés non seulement de notre prière, celle du Père Bernard et la mienne, à toutes vos intentions, espérant que vous allez bien, que vous obéissez bien aux différentes instructions qui nous sont données. Et de conserver la vertu de prudence, bien sûr, mais aussi que notre foi à tous ressorte raffermie après ce temps d'épreuve. Voici donc arrivé au cinquième dimanche, le temps passe quand même vite, de Carême, où il nous est donné d'entendre ce très beau texte, cette page extraordinaire, très riche et dense de la résurrection de Lazare. Une page du reste qui introduit directement à la fête de la Pâque, c'est-à-dire à la mort et la résurrection du Christ, dont cette page est tout à la fois l'annonce prophétique, le signe avant-coureur et l'événement décisif qui va en déclencher en définitive tout le processus. Retenons, si vous voulez bien, quelques traits que je tire de ce très riche évangile. Vous l'avez entendu, c'est en connaissance de cause que Jésus, averti de la maladie de son ami Lazare, laisse passer quelques jours jusqu'à ce que Lazare soit mort. Et Jésus va proclamer: cette mort est pour la gloire de Dieu. Retenez bien cette expression. Et encore, il dit à ses disciples: je me réjouis de n'avoir pas été là afin que vous croyiez. Et Jésus dit encore: je suis la résurrection et la vie. Donc, ces quelques rappels de citations veulent nous dire qu'il n'y a aucun doute. Jésus savait très bien qu'il venait pour arracher son ami Lazare à la puissance de la mort et lui rendre la vie. Alors, comme chaque fois, posons-nous quelques petites questions. Puisque Jésus savait qu'il allait ressusciter Lazare, pourquoi Jésus, en s'approchant de son tombeau, a-t-il pleuré? Pourquoi Jésus a-t-il frémi d'émotion? Pourquoi a-t-il été bouleversé intérieurement? L'évangéliste nous rapporte avec soin tous ces détails. Eh bien, dire que Jésus, malheureusement, ça arrive, hein, a fait semblant de pleurer, qu'il a fait semblant d'être un homme, qu'il avait semblant d'avoir des sentiments humains, c'est proprement un blasphème, n'ayons pas peur des mots, car c'est nier la vérité de l'incarnation du Christ. Non, et non, Jésus n'a pas fait semblant. Il est vraiment homme, totalement homme, tout semblable à chacun de nous. Ce ne serait pas non plus une solution, comme le font parfois les théologiens ou les exégètes, que d'essayer de discerner dans la psychologie de Jésus quelle serait la part divine ou la part humaine. Bon, certes, ceci est sans doute complexe, mais finalement ne nous conduit à rien. Ayons l'humilité de le dire. Je crois, si vous le voulez bien, qu'il faut aller plus profond. Faut aller jusqu'au mystère même de l'être du Christ que nous révèlent ces larmes de Jésus. Jésus a vraiment pleuré. Jésus a vraiment eu faim et soif. Jésus a vraiment souffert. D'ailleurs, frères et sœurs, ce n'est pas seulement devant la mort de Lazare que Jésus a pleuré. En vérité, souvenons-nous, c'est devant sa propre mort, à Gethsémani, qu'il a pleuré. Et pourtant, il savait que cette mort n'était qu'un passage vers la résurrection, un passage de ce monde vers son Père, une descente au tombeau pour en ressurgir vivant au matin de Pâques. Et pourtant, devant sa propre mort, Jésus a été en agonie, il a été troublé. Nous l'entendrons au cours de la semaine sainte, jusqu'au plus profond de son âme. Mon âme est triste jusqu'à la mort, dira-t-il à ses disciples. Il s'est effondré tout au long de son chemin de croix devant son Père, la face contre terre, en criant « Père, s'il est possible que cette heure passe loin de moi !» Tout ça, frères et sœurs, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas faire semblant que Jésus a agi ainsi. Et les gouttes de sang ont coulé alors sur son visage. Jésus, qui était Dieu, Dieu en personne, a voulu, nous dit saint Paul, s'anéantir pour prendre notre condition d'esclave. Ce n'est pas là une manière de dire, ni une manière de faire. Non, Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, s'est volontairement anéanti pour se faire en tout semblable à nous. Et cela, il l'a fait, comme nous le disons chaque dimanche, souvenez-vous, dans le Credo, pour nous les hommes et pour notre salut. Toute l'humanité du Christ, tous les actes humains du Christ s'expliquent ainsi. Jésus s'est fait homme pour nous sauver. Il n'y avait pour lui qu'un seul moyen de nous sauver, c'était au plus fort de son amour divin, dans toute la puissance débordante de sa tendresse et de sa douceur, de s'incorporer, c'est-à-dire de prendre corps, de faire corps à notre condition humaine, d'en épouser jusqu'au fond toutes les dimensions. Oui, Jésus a pleuré. Et c'est parce qu'il a pris sur lui toutes nos douleurs, tous nos pleurs, toutes nos tristesses, tous nos désarrois, toutes ces occasions où nous-mêmes nous sommes submergés par la tristesse, la crainte, la peur, comme peut-être nous pouvons l'avoir en ce temps d'épidémie, l'angoisse par la souffrance, la désolation devant le malheur des êtres chers. Oui, oui, tout cela, Jésus l'a vécu intensément, peut-être de la manière la plus intense qu'un homme ait pu le vivre, sans aucune réserve. Jésus a pris sur lui toute la douleur des hommes, parce que c'était le seul moyen de nous guérir de nos propres douleurs, de nos propres larmes. C'était le seul moyen de porter le salut au cœur de chaque souffrance humaine. Jésus, précisément parce qu'il est Dieu, ne pouvait pas et ne voulait pas guérir nos souffrances et nos larmes comme du dehors. Comme ça, en un geste, simplement en les essuyant de sa main. Il ne pouvait et ne voulait guérir nos larmes que par ses propres larmes à lui, en pleurant du plus profond de son cœur avec nous. Et de la manière, ainsi Jésus pouvait nous sauver de la mort, nous guérir de la mort, qu'en partageant notre mort, en s'enfonçant dans les profondeurs ténébreuses du tombeau. Et c'est pour cela que Jésus a connu cette agonie à Gethsémani. Et c'est pour cela que Jésus a connu ce désarroi, cet abandon, quand il était sur la croix. Frères et sœurs, le mystère est plus grand encore, si vous le voulez bien. Non seulement Jésus s'est enfoncé dans nos larmes et nos souffrances, non seulement Jésus s'est enfoncé dans notre mort, mais encore il a pris sur lui-même notre péché. Cette horreur qu'est le refus d'aimer, cette horreur qu'est le refus de Dieu, cette fermeture de nos cœurs, ce durcissement, toutes ces barrières que nous dressons autour de nous-mêmes, tout cet égoïsme, cette haine, tout cela, Jésus l'a pris sur lui. Il l'a bu jusqu'à la lie. Jusqu'au fond de la coupe. Plus que ça, il y a été immergé, submergé par toutes nos haines, par toutes ces lies qu'il y a au fond de chacun de nos cœurs. Il en a été comme imprégné. Jésus s'est fait péché pour nous. Quel mystère! Et c'est pour cela qu'il a pu partager même notre abandon, notre déréliction suprême et crier sur la croix, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, voilà le mystère de l'incarnation du Christ. Dès lors, et nous pourrions terminer par là, chercher à comprendre les mécanismes de la psychologie à la fois humaine et divine du Christ est bien dérisoire, et j'allais dire tout à fait secondaire. Il suffit que nous nous mettions à genoux, dans une profonde adoration, devant cet amour de Dieu pour nous, cet amour du Christ qui se fait souffrance, qui se fait pleurs, qui se fait mort, qui se fait péché pour nous, afin que nous soyons avec lui, en lui, par lui, joie, vie et résurrection éternellement. Amen.